intelligence devant leurs parents et devant le monde, et qu'ils puissent oser aussi.
Du monde avec Patrice Dalmagne.
Nous écoutons Djora Feldman. C'est le plus grand clarinettiste de la musique klezmer, défini aux États-Unis comme la Jewish Soul. Le vrai klezmer, selon Djora Feldman, est un musicien traditionnel représentant une société qui a survécu depuis plus de 5000 ans. Son répertoire s'inspire aussi d'une chanson bulgare, que de la Rhapsody in Blue de George Gershwin, du New Rag de Scott Joplin, que d'une prière de liturgie juive, du tango argentin que de l'Ave Maria de Schubert. Djora Feldman. Eh bien, un autre monde s'ouvre avec Margot Liénard et Julien Biget. Après Don't Go Dancing et 4 années de concerts à travers l'Hexagone, Margot Liénard et Julien Biget choisissent de renouveler entièrement leur répertoire. Fidèles à leur identité, ils renouent avec leur goût pour l'assemblage d'œuvres originales et de celles issues des traditions populaires. Au fil de ce nouveau songbook, ils disposent leur propre mélodie au pied de ces folk songs qui, à travers de leur musique instinctive et leur poésie argotique, parlent de l'Amérique des opprimés.
Happy mama, for being so blue, when you keep on worrying the way you do. When things go wrong with you, he hurts me too. The man you love, I'm telling you the way you do, a man. careful, mama. Who's gonna break your heart when things go wrong, go wrong with you? He hurts me too. I love you, baby. You know it's true. So why put up, mama, with the way you do? When things go wrong, go wrong with you. When things go wrong, go wrong with you. When things go wrong, go wrong with you. He hurts me too.
Et ouais, le blues. Tradition revisitée et métissage font l'actualité des musiques du monde. De Kaboul à Bamako, Sowal Diaby. Sowal signifie question en persan et Diaby réponse en bambara. Sowal Diaby réunit sur une même scène des artistes ayant tous connu l'exil, qu'ils soient physiques ou culturels. De ce préalable à un rapprochement entre les traditions et les pratiques musicales dissemblables, découle ce recueil de 13 pièces composant une chatoyante, autant que fascinante, tapisserie sonore. Sowal Diaby.
Yangari, yangari, foi de bem,
I'm not afraid to die.
édition transversale, on va continuer notre voyage avec Si Amour. Si Amour est un artiste qui fusionne tradition et modernité dans ses compositions. Son album Machahou illustre cette démarche en proposant des chansons en kabyle et en français, abordant des thèmes tels que la paix, l'amour et la liberté. Les sonorités de l'album reflètent une culture riche en tonalités, offrant un voyage musical unique. Si Amour, Machahou.
Du monde avec Patrice d'Allemagne.
Une folk occitane époustouflante et féminine. Rosina de Peyre fut l'une des premières chanteuses à s'attaquer au riche et fertile terrain de la musique folk occitane. Depuis ses débuts, au début des années 70, elle se bat pour la préservation et la reconnaissance culturelle de son terroir. Et en réponse à ce combat culturel permanent, elle fonda son propre label Revolum. Accompagnée de sa fille Martina, Rosina propulse sa voix à travers une grande diversité d'humeurs et de luttes occitanes. Rosina et Martina de Peyre.
loving independence. Loving, loving, a mile of Argaren. Siopas de Rey en Franco. Per amor a montagnolo, sender in giallo Gesù ne si è, lo cote dell'aiolo, e se vuoi sedries, lo cote dell'aiolo. Nostre sul mestre so quel che fa noi se lo blat lau tu erbo lo prindems lo preghen che nu dai se lo gust del paluntems lo preghen che nu dai se lo gust del paluntems. Fier de tos vendemios, me giute plani paure custubi, tu cultivos la vigno, non tres viven lui, tu cultivos la vigno. Gores no en lo grit de guerra, pos en lo que fado tres un di, en posan sus la terra, cae mande no fausi, en posan sus la terra.
Eh bien, le voyage continue avec un autre artiste, le guitariste et chanteur Charles Kelly, a chanté en polyphonie avec ses frères dès l'âge de 4 ans. Il commence à jouer de la guitare à 8 ans et monte son premier groupe Zanarosti avec ses frères en 1980. Il intègre le groupe de Rajer en 1997 à Madagascar et aujourd'hui, Charles Kelly poursuit sa carrière solo tout en continuant ses collaborations avec des artistes prestigieux des musiques du monde. Charles Kelly. Thank you. Eh bien, on va se dire au revoir, mais avant de nous quitter, nous allons écouter Driss El Maloumi, qui a longtemps imaginé et rêvé sa musique accompagnée par un orchestre. Pour y parvenir, il a invité l'artiste espagnol Javier Blanco à collaborer avec lui aux arrangements. Ce nouveau projet illustre une facette de ce que Driss appelle la quête du Tahab ou l'extase musicale. Driss El Maloumi.
Dans quelques instants, retrouvez votre magazine littéraire Voyage en récit avec Geoffroy Scrive sur RCF. Vous écoutez RCF en Bretagne, à Quimperlé, sur le 99.6.
Voyage en récit.
Simon Cloquet-Lafolie.
Et Geoffroy Scrive.
Bonjour, je m'appelle Simon Cloquet-Lafolie. Je suis compositeur de musique de film, et uniquement de musique de film.
Merci Simon Cloquet-Lafolie pour lancer cette conversation. Peut-être pouvons-nous dire en quelques mots, nous allons parler de quelque chose de colossal, sans doute la bande musicale la plus longue de l'histoire du cinéma, enregistrée par les formations musicales de Radio France, l'Orchestre National de France et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sans oublier les chœurs également. Ce film, évidemment, est resté longtemps une légende pour les cinéphiles, sorti donc en 1927 par Abel Gance, intitulé « Napoléon vu par Abel Gance ». Le titre est précis et important de le souligner. Il a fait l'objet de restaurations successives. Il y en a eu, je crois qu'il y avait un document qui indiquait qu'il y avait à peu près 22 versions de ce film. C'est qui exact. Existaient. Et puis la Cinémathèque française s'en est emparée tout simplement parce que j'ai compris qu'ils avaient une difficulté quand un cinéma leur demandait quelle version envoyer et quand un cinéma voulait projeter le film. Finalement, ils font appel à Georges Mourier avec un contrat de 3 mois pour faire l'inventaire qui se transforme en 14 ans de travaux, de rénovation, de trouver des bobines, de les mettre en parallèle, de s'apercevoir qu'il n'y avait pas un film mais deux. Ensuite, un contrat a été passé donc finalement avec vous pour réaliser la musique liée à ce film, avec une contrainte forte, peut-être pouvons-nous commencer par là, Simon Cloquet-Lafolie, de ne rien écrire dédié à ce film, d'inventer pour ce film, mais de constituer une musique à partir d'éléments existants, donc à partir simplement du répertoire. Et vous êtes parti, je crois, sur à peu près 200 ans de répertoire, c'est ça ?
Exact, oui. Ben, il fallait quand même inventer, c'est-à-dire que il fallait créer une musique originale pour le film, c'est-à-dire qu'il soit créé uniquement pour ce film et qui n'existe que par rapport au film, et inventer une façon de travailler, parce que il fallait réarranger ses œuvres, les travailler pour qu'elles collent au film comme une musique de film moderne, c'est-à-dire qu'elles suivent les images à l'image près. Et voilà, c'est-à-dire c'est pas du tout un accompagnement de film muet, c'est vraiment une partition originale pour ce film, Donc, il a fallu inventer une méthode de travail, en fait.
C'est
parce
ça.
Que, voilà.
C'est parti pas... de rien, parti des images. On vous a donné quoi? Les images, vous les regardiez une par une, comme spectateur, et puis.
La chose très intéressante à propos de ce projet, c'est qu'en fait, il y avait absolument une page blanche. Il y avait rien. C'est-à-dire que Gans n'a laissé aucune instruction, à part une vingtaine de minutes de musique par Arthur Honegger, qui sont inutilisables parce que d'abord le montage est différent et ensuite on ne peut pas utiliser 20 minutes de musique pour un film qui dure 7 heures. Donc j'ai décidé de partir vraiment de zéro et de créer un univers musical qui soit complètement nouveau en fait.
Et puis peut-être faut-il indiquer que je crois que ni Abel Gance ni Arthur Honegger ne furent satisfaits de cette musique à l'époque en fait. C'est assez étonnant ça.
Non, ils sont pas très bien entendus parce que je crois que Abel Gance changeait le montage sans arrêt.
Ah oui, donc c'est l'enfer.
Oui, donc pour un compositeur c'est le cauchemar intégral, surtout à l'époque. Aujourd'hui, ce serait plus simple, mais à l'époque... Et puis bon, je crois qu'ils ne se sont pas entendus sur ce film. Voilà, ils se sont entendus sur d'autres films. C'est pas un jugement de valeur. Ils ne pensaient pas que c'était un mauvais compositeur, je pense.
Non, non.
Mais sur ce film, ils ne se sont pas entendus. Et je pense que la musique d'Honegger, quand on connaît sa musique, il n'était pas forcément la meilleure personne pour ce film-là. Autant... pour d'autres projets, oui, mais pour ce film-là, avec son côté épique, romantique, je pense que Honegger n'était pas forcément la bonne personne. Mais enfin, c'est pas à moi de juger. Et le fait est qu'ils se sont pas entendus et que donc à l'époque, je sais même pas s'il a gardé quoi que ce soit. Moi, j'ai gardé 1 minute 30.
C'est ça, c'est ce que je veux dire. Nonobstant, vous gardez 1 minute
oui,
et quelques.
J'ai quand même voulu saluer Arthur Honegger parce qu'il a quand même. Quand même fait partie de ce projet. Donc j'ai gardé dans la scène des ombres de la convention, j'ai un petit peu réarrangé, mais j'ai utilisé 1 minute 30 de la musique de Honegger.
Alors justement, cela aborde une question technique. Vous vous dites, je vais utiliser un extrait de la musique d'Honegger. Comment l'inscrivez-vous? Comment s'incruste-t-elle parmi les autres œuvres qu'on entend pour que tout concorde et tout se raccorde? On joue pas seulement sur un décrescendo et un crescendo.
Ah non, toutes les musiques, ça c'est mon travail d'arrangeur et de musicien et de compositeur, parce qu'en fait, c'est comme si on composait avec la musique des autres, d'une
voilà,
certaine
c'est
façon.
Ça.
C'est comme si, c'est une espèce de... Il faut arriver à écrire avec des fragments musicaux, voilà, et que tout s'enchaîne
naturellement.
Harmonieusement, sans qu'on se rende compte qu'on passe de Mozart à Sibelius, à Schubert, à Shostakovich,
à Wagner.
Et donc c'était le truc qu'il fallait que j'invente, en fait. C'est-à-dire d'arriver à créer une œuvre unifiée à partir d'éléments totalement hétérogènes.
Alors, comment avez-vous pensé, justement, à utiliser telle ou telle musique? Nous sommes en 2020, vous avez le contrat, bon, le Covid arrive. À ce moment-là, pendant le confinement, aviez-vous les images du film disponibles? Vous pouviez travailler pendant ce confinement ou pas?
Alors, ça s'est passé tout un petit peu par hasard. Je dînais un jour avec des amis, et le directeur de la Cinémathèque, Frédéric Bonneau, était là parmi ses amis. Mmh. Et comme il sait que je suis compositeur, il m'a demandé l'avis... Si j'avais un avis sur une personne à laquelle il pensait peut-être pour faire ce travail. Et là, je lui ai dit, bon, j'ai bien sûr un avis sur cette personne, mais pourquoi tu me demandes pas, puisque c'est mon métier? Elle m'a dit, ah bon, ça t'intéresse. Et en fait, il m'avait déjà demandé d'accompagner les films muets à la Cinémathèque, puis j'avais dit non, c'est pas mon métier, d'improviser sur des films, je sais pas faire ça. Donc, il m'avait dit, c'est pour ça, je pensais que ça t'intéressait pas de faire une musique d'un film muet, puisque je lui avais répondu non la première fois, je lui dis oui, mais là c'est un travail très différent, là c'est vraiment un travail d'écriture et de longue haleine et donc il m'a dit je vais te mettre sur l'appel d'offres. Donc j'ai participé à l'appel d'offres, ça c'était en février 2020, donc mars et avril 2020, j'ai donc écrit. Ils ont demandé de faire au compositeur de l'appel d'offres, ils ont demandé de faire une démo sur la scène du siège de Toulon.
C'est ça.
Enfin, sur la séquence.
Oui, c'est extrêmement long.
Oui, c'est 1h20.
Oui.
Donc, il fallait faire une démo d'1h20 pour être considéré comme potentiellement le compositeur choisi. Et donc voilà, c'était le confinement, donc c'est très bien tombé. J'ai fait la démo d'une heure vingt et j'ai été choisi en juin par le comité d'administration. Et donc j'ai commencé à recevoir les premières séquences autres que Toulon, c'est-à-dire le début du film, grosso modo, à partir de septembre-octobre 2020. Et j'ai travaillé pendant 3 ans et demi, disons, au rythme de la réception des séquences. En fait, je recevais une séquence, je travaillais sur cette séquence, ensuite je voyais Joël Dair, le directeur du patrimoine de la Cinémathèque, qui validait la séquence, et voilà, ainsi de suite. Et donc, ça n'a pas duré 3 ans et demi en continu, parce qu'il y a eu beaucoup de moments, surtout avec le Covid, où je recevais pas d'images pendant 2 mois, 3 mois, voire parfois un peu plus. Mais dès que je recevais les images, voilà, je m'attelais à scorer, comme on dit en français, je sais pas comment, en anglais, en bon français, on dit, je sais pas comment on le dit, mais à
partitionner,
à synchroniser une musique.
Et donc, vous procédiez par étapes, vous dites, tiens, je reçois les images, je vais d'abord les voir, simplement, entièrement, ou dès les premières images, je dis, tiens, je pense à cette musique, ou je penserai aussi à celle-là, et laquelle je choisis. Il y a peut-être des choix à faire.
Il y a pas des choix, oui, il y en a des dizaines de milliers à faire, mais, non, bien évidemment, je regarde la scène. Il n'y a pas de musique, c'est en silence total, donc je regarde la scène, je la regarde d'ailleurs plusieurs fois, et en fait, j'essaie de comprendre la scène, j'essaie de comprendre ce qui est important, ce qui est moins important, ce qu'il faut appuyer, c'est le geste total, le geste total de la scène, oui. S'il y a un crescendo, voilà, donc je regarde le film très attentivement, et après, je réfléchis.
Et c'est un travail.
Alors, c'est bien sûr, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que si en regardant une scène, quelque chose, j'ai tout de suite une idée de quelque chose, bien sûr, je la mets de côté. Mais, grosso modo, après, j'écoute beaucoup de musique. Je réécoute des musiques que je connais. J'en découvre d'autres. J'ai beaucoup passé de temps sur les sites de streaming, à la table, à la maison, pas forcément dans le studio, avec toujours l'image de la scène dans la tête, et quand j'entendais une musique qui me paraissait correspondre à mon souvenir du film, je la notais, je la mettais dans une playlist, ce qui fait qu'à la fin, j'avais des playlists pour chaque séquence, j'avais des playlists avec beaucoup d'œuvres qui m'avaient semblé appropriées. Alors parfois, j'en gardais aucune, et je refaisais une autre playlist, mais parfois, après, j'enregistrais ces playlists dans mon ordinateur, dans Pro Tools. Et une fois que j'avais toutes ces œuvres en audio, je pouvais commencer à les monter, à les éditer, à les retravailler, à les réarranger. Dans certains cas, il fallait réécrire certaines choses. Mmh. Et pour que ce soit parfaitement calé à l'image, et c'est jamais une seule œuvre. C'est-à-dire, c'est très rarement une seule œuvre. C'est toujours des œuvres composites. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on mélange des œuvres dans une même séquence.
Était-ce un travail toujours seul, ou avez-vous pris parfois, pour regarder les images, l'avis d'amis à qui vous les montriez aussi pour dire qu'est-ce que cela t'inspire ?
Alors, j'ai toujours travaillé seul, c'est-à-dire que c'est un travail solitaire. Bien évidemment, j'ai des gens au studio qui sont là de temps en temps, Isabelle que vous avez rencontrée, ou Baptiste que vous avez rencontré, ou des gens de la Cinémathèque, bien évidemment. Je leur présentais le travail et je leur demandais ce qu'ils en pensaient, bien évidemment. Si ça leur paraissait, si j'étais fou ou si j'étais dans la bonne voie.
Alors du coup, la question qui en découle est celle-ci, vu que c'est un travail long, vous recevez les images, vous les regardez, vous les re-regardez, vous pensez à la musique qui pourrait les accompagner, on va dire ça comme ça. Qui pourrait les faire vivre.
J'aime pas le mot d'accompagnement.
Moi non plus, mais... Est-ce que cela pouvait avoir comme conséquence le fait de... Comment dire ? On vous invite à un concert, ça n'a rien à voir avec ce travail, et la musique que vous entendez, vous la pensez dans le film.
Ah oui, ça c'est arrivé que j'écoute France Musique, que j'entende quelque chose, que... Oui, bien évidemment.
Vous viviez...
pendant 4 ans, j'ai...
Avec Abel Gance et son Napoléon.
Oui. Je dois avoir, je dois être la personne avec Georges Moriez qui a vu le film le plus de fois.
Oui, c'est ça.
Alors, j'ai vu des dizaines, milliers de fois.
Alors, peut-être pouvons-nous aborder quelques compositeurs. Pourquoi ? Parce que quand nous commençons à lire simplement la liste, hein, par séquence, je vous remercie de me l'avoir fait parvenir, évidemment, nous tombons dès la première page sur des noms connus, évidemment, Mendelssohn, et puis d'autres nettement moins connus. Alors, comment les avez-vous découverts à cette occasion ? Ou aviez-vous aussi, comment dire, le plaisir et la joie de les sortir un petit peu, de les dépoussiérer ? Par exemple, Philippe Gobert, Schmitt, de la Tombelle.
Alors, comme je vous ai dit, l'idée, c'était de faire une musique originale pour un film qui avait 100 ans, hein, c'est grosso modo.
Grosso modo.
C'est-à-dire qu'il fallait que le spectateur lambda, entre guillemets, spectateur non spécialiste, musicien, mélomane averti, quand il regarde, ce qui est quand même le gros du public, quand il regarde le film, et l'impression d'entendre une musique qu'il n'a jamais entendue. C'est très important, parce qu'une musique de film, si on ne joue que des airs connus, c'est insupportable au bout d'un moment. C'est-à-dire que d'abord, la musique prend le pas sur le film, et puis on n'a pas envie d'entendre 7 heures d'airs connus. On a envie de, on a envie d'être transporté dans un monde nouveau, inconnu. Voilà, on n'a pas envie d'entendre des rengaines. Donc, votre question, Mendelssohn... Vous êtes tombé sur la première séquence. Dans la première séquence, il y a quasiment que des musiques inconnues du public.
C'est ça, tout à
fait. À part ce Mendelssohn.
À part ce Mendelssohn.
Mais parce que j'aime beaucoup qu'il y ait quand même un petit pourcentage dans le film d'œuvres auxquelles les gens
puissent se raccrocher, quoi.
Voilà. Voilà. Qu'il y a de temps en temps un petit rocher sur lequel et puis ça fait plaisir. Hein, c'est comme c'est une friandise. Et donc, et dans le cas présent, c'était en plus de ça parfaitement adapté. Et voilà, par exemple, cette séquence, cette première séquence, ces œuvres s'enchaînent sans interruption. On passe de Gobert à Mendelssohn sans même s'en rendre compte. Alors que Gobert est un compositeur du XXe siècle et Mendelssohn du milieu du XIXe. Donc, dans des styles qui sont très différents, de la musique française, de la musique allemande. Donc, j'ai choisi à dessein, le plus souvent possible, d'utiliser des œuvres inconnues, méconnues, voire totalement inconnues. Il y a les compositeurs dans toute la première, dans toute l'enfance de Napoléon, c'est-à-dire les scènes de Brienne, les deux premières séquences. Il y a du donc Philippe Gobert qui est un compositeur oublié totalement, jamais joué en France, jamais joué ailleurs d'ailleurs. Et il y a du Benjamin Godard qui est un compositeur un tout petit peu moins méconnu, mais enfin qui est quand même jamais joué non plus en France, alors qu'il a écrit de la très très bonne musique, qui en plus de ça s'adapte parfaitement au film.
Et comment la connaissiez-vous?
Je connaissais le nom de Philippe Godard, je connaissais pas sa musique en profondeur, mais je connaissais Benjamin Godard, pardon, je connaissais son nom, je connaissais pas bien sa musique. Philippe Gobert, j'en avais jamais entendu parler, pour être parfaitement sincère avec vous, et c'est lui qui commence le film.
Il commence le film, c'est voilà. Génial.
Donc, si vous voulez, vous avez pendant, je sais plus, 45 minutes, ensuite, la deuxième séquence qui est la leçon de géographie, c'est-à-dire quand il est au collège et que on se rend compte qu'il est malheureux dans ce collège. Dans la deuxième séquence, dans son école, j'utilise un compositeur qui s'appelle Fernand de la Tombelle, qui est totalement oublié aujourd'hui, et de nouveau du Philippe Godard. Et donc, pendant 45 minutes, pendant tout le début du film, à part ce petit extrait de Mendelssohn, vous n'entendez que de la musique que vous n'avez jamais entendue. Donc, vous pouvez avoir l'impression que vous entendez une musique complètement originale, écrite spécialement pour le film. Et pendant tout les 7 heures du film, j'ai cherché le plus possible à jouer de la musique qui soit peu familière ou pas du tout familière aux oreilles
du grand public.
Du grand public.
C'est ça. Alors, une question technique. Dans cette liste de...
Ce qui crée cette impression d'écouter une musique originale.
Exactement.
De film.
Voilà. Le film est la musique est indissociable des images, si voilà. Je puis dire. Voilà. Elles y collent parfaitement. Première question sur cette liste. Pourquoi avez-vous indiqué à chaque fois la date de mort du compositeur et jamais son année de naissance?
C'est une question juridique, en fait.
Ah.
C'est-à-dire que je voulais que ce soit clair pour mes éditeurs, qui sont la Cinémathèque française. de savoir quelles œuvres j'utilisais étaient dans le domaine public, donc je pouvais les malaxer à ma guise, et quelles œuvres étaient encore protégées par le droit d'auteur, et avec des ayants droit, et donc à ce moment-là, la date de décès du compositeur compte, à part la mienne, qui n'est pas indiquée. Et qu'on espère le plus tard possible. Donc c'est pour ça que j'avais pris dès le début l'habitude pour mes amis de la Cinémathèque de savoir, pour qu'ils sachent tout de suite. Mm-hmm. Et c'est pareil sur la cue sheet, tout ce qui est en rouge, c'est ce que je vous ai indiqué là, vous voyez. Tout ce qui est en rouge, c'est du timing de musique qui est protégé avec un éditeur pour les œuvres protégées.
Pour les droits.
Donc j'avais bien indiqué, après avoir fait la démo, quand j'ai fait la démo du siège de Toulon, je n'avais pas cette information. J'étais pas sûr de pouvoir utiliser, c'était un peu flou, de pouvoir utiliser des œuvres protégées. Donc c'est pour ça que le siège de Toulon, l'heure 20 de siège de Toulon, n'utilise que de la musique du 19e siècle, dont j'étais sûr que je pouvais, entre guillemets, taper dedans, que je pouvais réarranger à ma guise et sans avoir un problème juridique.
Pour Penderek et Shostakovich, j'ai peut-être...
Voilà, mais ça, c'est après.
C'est parce bien que, après. C'est...
Voilà, donc voilà. Quand j'ai fait la démo en 2020, et après, ils m'ont engagé, j'ai fait mettre sur le contrat que j'ai pensé que c'était impossible de faire 7 heures de musique avec que de la musique tonale, que de la musique du 19e ou du début du 20e. Je pensais qu'il fallait de la musique du 20e siècle, de la musique de compositeurs plus récents, purement d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire et d'un point de vue,
changer un petit peu de style aussi.
Changer de style, c'est pas tellement le problème. J'avais besoin de la musique du 20e siècle pour ce film. Je m'en suis rendu compte très vite. Alors, j'ai gardé quand même cette espèce d'unité stylistique pour Toulon, ce qui tombait très bien. Parce que l'1h20 de siège de Toulon, unité de temps, unité de lieu. C'est le siège de Toulon. Ça se passe à Toulon. Et c'est la bataille de Toulon. Donc là, en fait, finalement, ça faisait du sens d'utiliser un style musical qui était toujours le même. Mais après, j'ai effectivement eu l'autorisation d'utiliser un certain pourcentage de musique moderne, enfin plus contemporaine, protégée par la Cinémathèque. Ben, évidemment, ce sont des implications juridiques, c'est-à-dire que autant il n'y a aucune autorisation à demander pour utiliser Beethoven, Mozart, Schubert, les grands romantiques, Tchaïkovski, Liszt, et même certains compositeurs plus récents, même Godard, même. Mais par contre, il y a certains compositeurs comme Shostakovich, comme Penderecki, comme Florent Schmitt, comme je l'ai appris certaines œuvres de Prokofiev, comme je l'ai appris certaines œuvres de Rachmaninoff. Oui, parce que bien qu'elle soit écrite en 1901, bien au-delà des 70 ans, il y a des règles très compliquées au niveau de publishing que j'ai découvertes au moment du dépôt. Donc il y a des œuvres qui sont protégées, même si elles ont 120 ans.
Y avait-il des choses protégées concernant Albéric Magnard ?
Non.
Je tiens à vous signaler, pour avoir eu de nombreuses émissions avec Pierre Magnard, qui est l'un de ses descendants, philosophe à Paris, né en 27. Justement.
Il est mort en 14 en défendant son château, je crois. Non, lui.
Je ne saurais vous le dire, je demanderai justement à son descendant, Pierre Magnard, qui a été enchanté d'apprendre que la musique de son aïeul a été utilisée et donc étant dans... peut-être oui, entendu dans ce film-là.
Oui, un certain nombre.
Un certain nombre de musiques d'Albéric Magnard. Oui. Et nous, vraiment, là, vous nous donnez complètement l'occasion de le réentendre.
Voilà, et ça, c'était une de mes petit hobby que j'ai eu pendant la création de la musique de ce film. C'était, je voulais utiliser beaucoup de musique française. Je voulais un petit peu rendre hommage à tous ces petits maîtres... qui sont pas si petits d'ailleurs, qui sont des maîtres. Et donc j'ai vraiment fait autant que j'ai pu.